Vous écoutez On lit pour vous.
Le bambou est-il vraiment plus vert que le plastique? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 3 janvier 2025 dans la presse. Disons-le d'emblée, la réponse est complexe. Que ce soit le bambou ou le plastique, il n'y a aucun matériau qui est bon ou mauvais en soi, rappelle Aurore Courtieu-Boineau, spécialiste en économie circulaire et gestion des matières résiduelles. Tout dépend de l'usage qu'on en fait et pour combien de temps. Pour y répondre, décomposons étape par étape le cycle de vie d'un objet en bambou. Une culture aisée. La culture du bambou est plutôt aisée. Il s'agit d'une plante qui a besoin de peu d'eau et d'intrants, engrais, pesticides, pour pousser. Certaines espèces peuvent pousser jusqu'à 1 mètre par jour, souligne Elliot Müller, chercheur au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIREG. Mais selon les pratiques agricoles, le bambou peut être cultivé de façon intensive, ce qui peut entraîner notamment la déforestation, une perte de biodiversité et une diminution de qualité des sols. L'idéal, c'est donc de s'assurer que le bambou est cultivé de façon durable. Le bambou étant principalement cultivé en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, il faut aussi tenir compte du transport dans son impact sur l'environnement, ce qui représente souvent 10 à 15% de l'empreinte de l'objet final, estime le chercheur. Un produit plus ou moins transformé. Avant de devenir un meuble, du papier toilette, des chaussettes ou une brosse à dents, le bambou doit d'abord être traité et transformé. Or, il y a souvent peu d'impact au moment de sa production, mais il y en a beaucoup plus au moment de sa transformation, avance Elliot Müller. Car plus un objet est transformé, plus sa production nécessite de matériaux supplémentaires, plastique, colle, résine, etc., et d'énergie. Et moins il est facilement recyclable ou compostable. Par exemple, fabriquer des textiles à partir de fibres de bambou requiert l'utilisation de beaucoup de produits chimiques, et bien souvent, le tissu soi-disant fait en bambou n'en contiendra finalement qu'une très faible proportion. Les textiles en bambou ne sont peut-être pas aussi écologiques qu'on voudrait vous le faire croire, rappelait en 2019 le Bureau de la Concurrence Canada dans un communiqué de presse. Aussi, on mélange parfois des fibres de bambou à un liant à base de mélamine pour fabriquer de la vaisselle, comme des tasses ou des assiettes pour les enfants. Or, la mélamine est une substance susceptible de migrer vers la nourriture sous l'effet de la chaleur, et si on en ingère de grandes quantités, cela peut présenter des risques pour la santé. Au Canada, pourtant, la vente de cette vaisselle est toujours autorisée, mais la Commission européenne a récemment rappelé que sur son territoire, elle était interdite pour cette raison. Le problème de l'usage unique. Selon les deux spécialistes, le problème du bambou est qu'il est souvent montré comme une solution de rechange verte au plastique à usage unique, alors que d'autres avenues devraient être privilégiées. Par exemple, les ustensiles compostables en bambou sont certes une solution de rechange intéressante, mais cela reste un objet qu'on n'utilise qu'une poignée de secondes avant de le jeter, rappelle Aurore Courtieu-Boineau, spécialiste en économie circulaire et gestion des matières résiduelles. Les ustensiles en bambou, dit-elle, c'est vert, c'est nouveau, c'est compostable. Mais il faut surtout se demander, est-ce qu'on pourrait faire sans? Selon elle, à choisir, le mieux serait d'opter pour des ustensiles réutilisables ou sinon pour des ustensiles en carton recyclables et faits au Québec. Idem pour les brosses à dents. Certes, celle en bambou peut sembler une meilleure option que celle en plastique, puisqu'elle est présentée comme compostable et qu'elle permet d'éviter de fabriquer et de jeter un objet en plastique. Mais ce qui est le plus écologique, c'est d'allonger au maximum la durée de vie de l'objet, rappelle Aurore Courtieu-Boineau. Donc, à choisir, une brosse à dents en métal avec une tête interchangeable reste certainement un meilleur choix. Verdict. Les raccourcis du genre « c'est en bambou, donc c'est forcément meilleur » sont à éviter, déclare Aurore Courtieu-Boineau. L'idéal, si on choisit d'acheter un objet en bambou, est qu'il ait un label certifiant que la plante est cultivée de façon durable, qu'il soit peu transformé, mais surtout, qu'il dure longtemps. Pour des choses jetables, c'est vraiment discutable. Mais pour des choses faites pour durer, comme l'ameublement, ça a du sens, résume Elliot Muller. C'était « Le bambou est-il vraiment plus vert que le plastique? » un texte de Chloé Bourquin, paru le 3 janvier 2025 dans La Presse.
Il était une fois l'arsenic à Rouyn-Noranda. Un texte d'Émilise Lessard-Thérien avec la collaboration du comité de Rouyn-Noranda, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau Cahier du Socialisme. La crise de l'arsenic est sans aucun doute l'un des dossiers qui m'a le plus sollicité lors de mon mandat à titre de député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue de 2018 à 2022. Originaire du Témiscamingue, né en 1991, je suis arrivé en poste sans connaître vraiment les enjeux reliés à la fonderie Horn de la compagnie Glencore, qui pourtant mobilisait des citoyennes et des citoyens de Rouyn-Noranda depuis des décennies déjà. Toutefois, même lorsque je n'en ai pas été moi-même la porteuse, j'ai toujours été une alliée des causes environnementales et sociales, raison pour laquelle j'ai décidé de faire le saut en politique à l'automne 2018 sous les couleurs de Québec solidaire. Me voilà donc arrivé en poste dans des souliers immenses, à 26 ans, sans compétences connues pour les fonctions de député, mais avec au ventre des convictions profondes pour améliorer et préserver le bien commun. Dans les premières semaines qui ont suivi l'élection, j'ai rencontré des représentants du CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue pour échanger sur les grands dossiers du moment. L'étude de biosurveillance visant à connaître les impacts de la pollution de l'air sur la santé de la population était à l'ordre du jour. Rouyn-Noranda était la ville qui enregistrait la plus mauvaise qualité de l'air au Québec. Cela inquiétait les autorités de la santé publique. Avec raison. C'est en 2019 que nous furent publiés les premiers résultats. Les enfants du quartier Notre-Dame au pied de la fonderie Horn ont en moyenne 4 fois plus d'arsenic dans leurs ongles que les enfants du groupe Témoin à Amos. Cet écart grimpe même jusqu'à 56 fois plus d'arsenic dans le corps d'un petit garçon du quartier. C'est une onde de choc. Mère de 2 enfants, je suis atterré. Assommé. L'arsenic est reconnu comme étant le roi des poisons. Personne n'en veut dans son corps et là, il se retrouve dans celui de nos enfants, ceux-ci en sont imprégnés jusqu'au bout des ongles. Rapidement, nous commençons à documenter la situation. Dès lors, nous constatons qu'il existe une norme québécoise pour limiter la présence d'arsenic dans l'air. Cette norme est fixée à une concentration moyenne annuelle de 3 nanogrammes par mètre cube d'air. Une exposition prolongée au-dessus de ce taux expose la population à des risques pour sa santé. Au même moment, on apprend que Glencore jouit d'un droit de polluer qui lui permet en 2018 d'émettre 200 nanogrammes par mètre cube dans l'air de Rouyn-Noranda. C'est 67 fois la norme québécoise. Un scandale. Ce droit de polluer s'appelle une attestation d'assainissement ou une autorisation ministérielle, dans le langage du ministère de l'Environnement. Celle-ci est renouvelable aux 5 ans. Elle a pour but de resserrer progressivement les exigences environnementales en fonction des connaissances acquises, des disponibilités technologiques et économiques ainsi que des besoins particuliers de protection des milieux récepteurs. À Québec, je dénonce vivement la situation à la période des questions à l'Assemblée nationale. C'est le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui me répond. J'ai demandé à la santé publique si les enfants de Rouyn-Noranda vont bien et effectivement, on m'a répondu que les enfants sont en santé. Pour le reste, on devra attendre le rapport de l'étude pour se poser davantage de questions. Les premiers résultats étant jugés insuffisants. Sur le terrain à Rouyn-Noranda, ça bouge. Se forme un comité de parents d'enfants du quartier Notre-Dame et de citoyennes et citoyens inquiets et mobilisés pour protéger la santé de leurs enfants et de la population de Rouyn-Noranda. Le comité Arrêt, pour arrêt des rejets et émissions toxiques. Ce comité se donne la tâche de s'informer et de documenter la situation. Les travaux de recherche d'Arrêt ont permis d'apprendre qu'il y a eu 2 attestations d'assainissement depuis l'entrée en fonction de la fonderie, la première en 2007 et la seconde en 2017. Ces attestations n'ont donc pas été émises aux 5 ans et elles l'ont été sans resserrement des exigences. Une autorisation de 200 nanogrammes par mètre cube de 2007 à 2012 et une autre de 2017 à 2021, où on demandait d'atteindre 100 nanogrammes par mètre cube à la fin de l'année. 14 ans pour resserrer une norme à un niveau 33 fois plus grand que la norme québécoise. Autant dire que les gouvernements qui se sont succédés pendant ces années n'ont jamais pris à cœur la protection de la santé de la population de Rouyn-Noranda. Les risques pour la santé de la population, il y en a plusieurs et ils sont très préoccupants. Risque accru de cancer, poumons, vessie, prostate, peau. Risque cardiovasculaire, problèmes respiratoires, risque relié à la grossesse, retard de croissance intra-utérine, petit poids à la naissance, accouchement prématuré, etc. Les enfants sont aussi plus fragiles à la toxicité des métaux lourds, dont l'arsenic et le plomb. Plus on est exposé tôt, plus le risque est grand et celui-ci augmente avec la durée d'exposition. Pour espérer corriger la situation, il a fallu clarifier ce que faisait la fonderie Horn de Glencore. Cette fonderie qui existe depuis 1926 est à l'origine de la création de la ville de Rouyn-Noranda, la capitale nationale du cuivre, car l'usine fond du cuivre depuis ce temps. D'abord le cuivre de la mine qui se trouve sous le site, et ensuite du minerai en provenance de partout dans le monde quand la mine fut fermée en 1976. Actuellement, la fonderie traite du concentré dit « vert », tiré de gisements de cuivre avec peu d'arsenic et autres métaux, auquel on ajoute un concentré complexe riche en or, en argent et en poison. Ce sont ces derniers qui émettent le plus de métaux lourds dans l'air. Ailleurs dans le monde, les teneurs d'arsenic acceptées pour ce type de résidus sont beaucoup plus sévères. Personne ne veut ce concentré complexe, pas même la Chine. Il est donc plus payant pour la fonderie de le traiter que de le vendre au rabais. La fonderie fait aussi le recyclage de matériaux électroniques et de déchets industriels. Elle insiste sur le recyclage, cela enverdit son activité. On attire beaucoup l'attention sur l'arsenic parce que ça frappe l'imaginaire, mais la fonderie rejette aussi du plomb, du cadmium, du nickel, du bismuth, du chrome, etc. Presque tout le tableau périodique des éléments y passe. Plus tard, on apprendra que le gouvernement connaissait cette situation depuis bien longtemps. Dès 1982, des chercheurs de l'Université Laval ont levé un drapeau rouge en concluant qu'il y a plus de cancers du poumon et plus de maladies pulmonaires chroniques, de maladies du système digestif et du système endocrinien à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or et au Québec. Et cela en excluant les mineurs et les fumeurs. On apprendra aussi que, dès 2004, des recommandations avaient été formulées pour réduire drastiquement les émissions d'arsenic. Après 10 ans de concentration record d'arsenic dans l'air ambiant, avec un pic de plus de 1000 nanogrammes par mètre cube en l'an 2000, 11 experts interministériels toxicologues métallurgistes déclarent. Finalement, le groupe de travail ne croit pas qu'une évaluation de risque de grande envergure soit nécessaire pour améliorer la connaissance de la situation. On dispose actuellement de renseignements suffisants pour affirmer que les émissions d'arsenic dans l'air ambiant doivent être mieux contrôlées par la fonderie Horn. Il recommande d'exiger que la fonderie atteigne une moyenne annuelle de 10 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air en 18 mois, et qu'elle se dote d'un plan pour atteindre la norme de 3 nanogrammes par mètre cube. Vous écoutez, il était une fois l'arsenic à Rouyn-Noranda, un texte d'Émilise Lessard-Thérien avec la collaboration du comité de Rouyn-Noranda, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau cahier du socialisme. Ces recommandations n'ont pas eu de suite. L'attestation qui suivit en 2007 fixait une cible à 200 nanogrammes par mètre cube en 2012, alors que les émissions étaient autour de 150 nanogrammes par mètre cube. À l'Assemblée nationale, je mets le dossier à l'avant-plan à l'automne 2019, une fois publié le fameux rapport de la santé publique régionale. On n'y apprenait rien de neuf. Tout dans ce rapport militait pour poser des gestes rapidement. J'ai eu droit à des déclarations inquiétantes. « Les risques sont minimes », nous a dit le premier ministre François Legault. Benoît Charrette, ministre de l'Environnement, m'a accusé d'exacerber les inquiétudes de la population. Sous la pression populaire, le gouvernement pose toutefois quelques gestes. Il demande un plan de réduction à la fonderie et met en place un comité interministériel pour évaluer ce plan. L'échéance est fixée au 15 décembre 2019. À ce moment-là, peu de médias nationaux ont de l'appétit pour le sujet. Le dossier résonne entre les frontières de l'Abitibi-Témiscamingue, mais il ne franchit pas le parc de la Vérendrye. Puis la pandémie de COVID-19 est arrivée. Le coronavirus était sur toutes les lèvres et dans tous les bulletins télé et radio. Le Québec a découvert le travail de la santé publique et son directeur national, héros de l'ombre, Horacio Arruda. Mais pendant 2 ans, les choses ont peu avancé sur le dossier de l'arsenic. La fonderie a finalement déposé un plan bonifié en juillet 2020, mais il a fallu attendre mars 2021 pour que le comité interministériel dépose un rapport complaisant. Aucune cible n'est exigée, aucun échéancier clair, demande d'accélération de quelques actions tout au plus, de sorte qu'en 2020, la fonderie émet une moyenne de 70 nanogrammes par mètre cube d'arsenic et en 2021, le taux augmente à 87 nanogrammes par mètre cube. Au printemps 2022, le dossier refait surface quand la santé publique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue publie de nouvelles données alarmantes sur l'état de santé de la population de Rouyn-Noranda. On y apprend la surreprésentation de bébés de petits pois à la naissance, 30 % de plus, et avec un retard de croissance intra-utérine. Une espérance de vie écourtée de 6 ans partout dans Rouyn-Noranda, 30 % de plus de cancer du poumon, 50 % de plus de maladies pulmonaires chroniques, alors que la ville n'a pas plus de fumeurs que la moyenne du Québec. Pour la première fois, des médecins de Rouyn-Noranda prennent la parole sur la place publique. Outre ces données qui nous incitent à remettre le dossier de l'avant, l'échéance de l'attestation d'assainissement arrive. En novembre prochain, une nouvelle entente devra être signée avec Glencore et de nouvelles cibles devraient donc être exigées. En commission parlementaire, j'arrive à arracher la réponse du ministre de l'Environnement. 30 nanogrammes par mètre cube, c'est la nouvelle cible souhaitée. C'est encore 10 fois plus que la norme québécoise. Le 10 juin 2022, dernier jour des travaux de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de poser la dernière question de Québec solidaire à la période des questions. Je tente un ultime essai pour mettre de la pression sur le gouvernement. Le ministre de l'Environnement me répond qu'exiger la norme québécoise à la fonderie, c'est exiger sa fermeture. C'est le début d'un discours de peur. Une semaine plus tard, alors que l'actualité s'en va en vacances, ici, en Abitibi-Témiscamingue, on publie un article rapportant que le Dr Arruda aurait retiré une annexe importante du rapport de biosurveillance de 2019 et qui concernait les taux de cancer à Rouyn-Noranda. C'est le début du plus gros battage médiatique qu'il m'a été donné de connaître. Enfin, sur le terrain, de nouveaux groupes citoyens naissent et s'impliquent. Rouyn-Noranda, faut qu'on se parle. Rouyn-Noranda, rebelles, Mères au front, Association pour la défense des droits, Impact, médecins. Des gens influents, normalement plutôt discrets sur ces enjeux, s'expriment publiquement. L'agenda du gouvernement caquiste est bousculé. Chaque fois que François Legault fait un point de presse, on le questionne sur la fonderie Horn. En pleine période électorale, les occasions sont nombreuses. Plus de 250 personnes se présentent à une assemblée publique organisée au début de juillet. Les journalistes affluent de partout pour venir couvrir ce qui se passe à Rouyn-Noranda. Les mentions du dossier dans les médias nationaux se multiplient. À l'émission 24-60 de RDI, Midi Info, Nouveau, à la radio 98,5 à Montréal. Tout le Québec a les yeux rivés sur Rouyn-Noranda et sur sa lutte citoyenne qui prend de l'ampleur. Des médias français se déplacent à Rouyn-Noranda. Des films sont produits. Le docteur Luc Boileau, qui a succédé au docteur Arruda, se rend dans la région à plusieurs reprises pendant l'été pour tenter de rassurer la population, mais chaque fois, c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. La confiance de la population est minée à l'égard du gouvernement et de la santé publique nationale qui mettent de plus en plus de l'avant une cible de 15 nanogrammes par mètre cube, encore 5 fois de plus que la norme provinciale. À la mi-août, le ministère de l'Environnement précise les exigences qui seront demandées à la fonderie. 15 nanogrammes par mètre cube au terme de la prochaine attestation, soit en 2027. Il reprend le discours de la santé publique, mais avec un échéancier qui ne fait aucun sens, dans 5 ans, puisque la santé de la population est encore négligée. De plus, le plan est moins ambitieux que celui présenté par la fonderie en juillet 2020. La semaine suivante, la fonderie annonce un plan qui colle à celui du ministère, ce qui soulève l'ire de la population. Le 1er septembre, le Dr Boileau revient dans la région. Lors d'une assemblée publique, après 3 heures d'intenses échanges avec la population, il admet qu'il ne souhaite pas attendre 5 ans. Pour l'atteinte de 15 nanogrammes par mètre cube. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, CAQ, déclinant sa responsabilité, nous dit que ce sera à la population de Rouyn-Noranda de décider si le plan est recevable ou pas. Il y aura une consultation publique du 6 septembre au 20 octobre, alors que les élections québécoises auront lieu le 3 octobre. La population de Rouyn-Noranda manifeste avec éclat le 21 septembre. Plus de 1 000 personnes de tous les âges marchent dans les rues pour réclamer la norme québécoise et l'encadrement de tous les métaux lourds. Le 29 septembre, François Legault débarque à Rouyn-Noranda pour soutenir son candidat caquiste et répéter son discours menaçant. La fonderie risque de fermer si on est trop exigeant avec elle. Il y a danger de perdre 600 jobs très bien payés. un discours qui suscite la colère, mais aussi la division. Le 3 octobre, après un été de lutte aux côtés des groupes citoyens et de la population, je perds mes élections au profit de la CAQ. C'est la consternation. Partout d'un bout à l'autre du Québec, on parle de cette défaite dans l'ensemble des médias. Un média anglophone va même jusqu'à écrire « The chickens voted for Colonel Sanders ». Quelques semaines plus tard, les résultats de la consultation publique sont dévoilés. Il n'y a aucune acceptabilité pour le plan proposé par la fonderie et le ministère. Mais durant l'automne, la fatigue militante se fait sentir. Tout le monde passe en mode attente de ce qui se retrouvera finalement dans la fameuse attestation d'assainissement et les prochaines exigences à Glencore. C'est finalement en mars 2023 que la CAQ dévoile son plan en jetant un nouveau pavé dans la mare. L'établissement d'une zone tampon aux abords de la fonderie. Si les cibles pour les émissions d'arsenic restent les mêmes que celles du plan initial, soit l'objectif de 15 nanogrammes par mètre cube en 2027, le gouvernement a décidé de relocaliser 200 ménages et de détruire 80 bâtiments pour éloigner des habitants de la fonderie. Les gens visés par cette expropriation déguisée l'ont appris à la radio en même temps que le reste du Québec. C'est le début d'un nouveau chapitre de cette lutte qui se poursuit encore. La lutte pour la santé de la population de Rouyn-Noranda et pour son droit à un air de qualité comme dans le reste du Québec, mais aussi pour que les expropriés de la zone tampon ne soient pas doublement perdants après avoir vécu des décennies à l'ombre de ces cheminées éternelles comme l'enfer, comme le chante Richard Desjardins. La dénonciation de cette injustice sanitaire et environnementale n'aurait pu se faire sans l'implication individuelle ou en groupe de nombreux citoyens et citoyennes. Il est difficile de se faire entendre loin des grands centres urbains. Cette lutte citoyenne rallie et trace la voie à d'autres groupes au Québec qui vivent des injustices et les encouragent à faire reconnaître leur droit à vivre dans un milieu sain. Le 26 septembre dernier, près de 1000 personnes ont marché dans les rues de Rouyn-Noranda pour dénoncer encore une fois le plan totalement inacceptable de la fonderie. La lutte résonne encore. Mais est-ce que le gouvernement saura bouger maintenant qu'il est confortablement assis sur son trône pour encore 4 ans, bien au chaud, à 900 kilomètres des volutes d'arsenic? C'était « Il était une fois l'arsenic à Rouyn-Noranda », un texte d'Émilise Lessard-Thérien avec la collaboration du comité de Rouyn-Noranda, paru à l'automne 2023 dans le numéro 30 de la revue Nouveau cahier du socialisme.